Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Bonjour à toutes et tous au programme de notre nouvelle édition. Guillaume reçoit Eva Guerra pour son premier roman paru chez Grasset. Gaëlle nous fait la visite de l'exposition Au téléphone Oracle Noir de Julien Creuset au magasin Centre National d'Art Contemporain de Grenoble. Et Thomas nous fait entendre les mots d'Antoine Mouton. Et bien sûr, nous terminerons par nos Gédéons, évidemment. Guillaume, cette semaine, tu es accompagné d'Eva Guerra et vous allez parler littérature, évidemment. Bonjour à vous deux et merci d'être sur notre plateau cette semaine.
Alors, Eva Guerra, d'accord, que ce soit non, plus précis, tu as dit Eva, mais c'est pas grave. En fait, c'est ça parce... rime comme ça et ça va peut-être dans le sens
même
du...
Mon directeur, mon chef d'établissement, au bout de 3 ans, m'appelle toujours Eva, d'accord. Donc c'est pas très grave.
Ouais. Alors oui, pourquoi je voulais effectivement rencontrer Eve parce que c'est un petit peu, on disait en aparté tout à l'heure, un peu, pas la success story, mais en tout cas, une belle aventure de cette deuxième rentrée littéraire du mois de janvier avec donc ce roman Rapatriement donc chez Grasset, prix transfuge du meilleur premier roman, c'est quand même une belle reconnaissance et puis pas mal de choses qui arrivent avec pas mal de rencontres en librairie et puis le festival du livre de Bron aussi auquel tu vas participer. Alors est-ce que tu peux dans un premier temps un petit peu résumer le livre? Alors, pas raconter l'histoire, mais de dire de quoi, avec tes mots, de quoi ça parle.
Oui, bien sûr, avec plaisir. Rapatriement, c'est l'histoire d'Annabella, une jeune fille de 23 ans qui fait des études de lettres classiques. Et donc, au début du roman, elle apprend, alors qu'elle est en train de travailler, elle est à la bibliothèque de l'ENS, elle travaille, elle fait une version, etc. Elle reçoit un message de sa tante qui lui dit de la recontacter d'urgence car elle a quelque chose à lui dire et en l'occurrence, lui apprendre la mort de son père. Donc c'est les premières pages du roman et en fait on se comprend au fur et à mesure que cette mort va être très compliquée à gérer pour Annabella parce qu'il y a d'une part le père est mort à l'étranger, donc il faut rapatrier le corps, ça a un coût, donc ça nécessite une somme d'argent qu'elle n'a pas. Et surtout on va comprendre aussi qu'elle ne parlait plus à son père depuis 2 ans. Et donc en fait on a une double enquête dès le début du roman, La double enquête consiste à éclaircir pour le lecteur les raisons de la brouille entre le père et la fille et à la fois pour le personnage elle-même, comprendre pourquoi elle s'est éloignée d'un homme qu'elle aimait tant, qu'elle admirait tant. Et c'est aussi, je crois, un livre sur la littérature. Alors ça peut paraître un peu prétentieux de dire qu'on écrit un livre sur la littérature, mais je crois que c'est un livre qui interroge, ce sont des questions que je me suis posées. Pourquoi écrire alors que tout le monde écrit, beaucoup de gens écrivent, pourquoi moi plus qu'une autre, etc. Et le personnage, en fait, est un personnage qui ne réussira pas à finir son premier recueil de poèmes parce qu'elle a un rapport, elle instrumentalise la littérature. Elle veut être écrivain, elle n'écrit pas pour comprendre, pour éclaircir une situation, pour comprendre le monde. Elle écrit pour se faire valoir, pour se distinguer des autres, pour dire « moi j'écris, moi j'ai fait des études ». Et donc, en fait, c'est une façon d'instrumentaliser la littérature. Et dans cette optique-là, elle a une conception quasiment ornementale de la littérature. Donc, la littérature ne peut pas être quelque chose qui permet de donner une clé d'interprétation du monde. Donc, en fait, c'est aussi un livre sur la vocation littéraire. Quels sont les véritables motifs de la vocation littéraire? Est-ce que c'est l'orgueil ou est-ce que c'est un amour profond de la littérature? Parce qu'on a admiré des auteurs et qu'ayant admiré des auteurs, on aspire peut-être à essayer... pas de faire autant qu'eux, mais à essayer d'imiter un peu, de rendre hommage.
Oui. Moi, je vois pas du tout d'orgueil, hein. Justement, alors je trouve que c'est passionnant ce que tu dis là. Si je faisais une petite boutade, je dirais que ton bouquin commence un peu comme aujourd'hui, papa est mort. C'est un petit peu ça, finalement.
C'est un peu ça, oui,
c'est un petit peu ça. Justement, pour revenir sur ce que tu disais, donc ça part quand même de ton vécu, en fait.
Ah oui, c'est très réel. Voilà. Enfin, c'est vraiment une situation qui m'est arrivée, voilà. Qui était vraiment tragique. Alors j'avais 1 an de plus qu'Annabella, j'étais dans le même état, je me revois, mais je crois que j'étais passée par cette rue, je me revois quitter l'ENS, habiter de l'ENS, je marchais, je savais pas où j'allais, j'étais complètement ahurie, et je marchais vers dans les rues, et je suis allée jusqu'à la cathédrale Saint-Jean, parce qu'en fait je savais pas où aller, et je me suis dit, je vais aller quand on apprend la mort d'un proche, et surtout d'un père ou d'une mère, qui sont quand même des êtres humains importants dans l'existence d'un individu. Mais peu importe l'âge, en fait. J'ai des amis encore aujourd'hui qui ont 40, 50 ans, et quand ils perdent leurs parents, c'est un choc. Donc peu importe l'âge, et je pense qu'à 23 ans, c'est encore plus fort, parce qu'on se dit, mais comment je vais faire? On est à peine sorti de l'enfance, on n'est pas encore autonome. En tout cas, moi, j'étais pas autonome, parce que j'étais étudiante. Et quand on m'a parlé des sommes, mais délirantes, mais moi, je savais pas qu'il fallait avoir autant d'argent pour mourir. Enfin, c'est cher, un enterrement, c'est 4000 euros, un rapatriement, c'est 20 000 euros. Il n'y avait pas d'assurance, il y avait des problèmes de PV trafiqués, j'étais en contact avec l'ambassade de France qui me donnait une partie des informations. On m'a même dit, mais pourquoi vous ne voulez pas enterrer votre père au Cameroun? J'ai dit, mais non, je ne vais pas enterrer mon père au Cameroun. Il est français, il est né en France, sa famille est en France, on ne va pas l'enterrer au Cameroun. Et je passais pour quelqu'un d'entêté. L'histoire qui m'est arrivée, c'est une histoire extrêmement triste, mais ce n'est pas une histoire qui fait un roman. Ça ne fait pas un roman. Et pour qu'on ait un roman, il faut que le personnage principal soit ambigu. Ouais. Et ça m'amusait aussi de faire un personnage comme ça, un personnage qui est ambivalent, qui a une ingrate. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ingrate à l'égard de ses parents? Est-ce qu'on n'a pas le risque, nous aussi, quand il y a un fossé culturel trop fort entre la génération du père et la génération des enfants, de faire preuve d'ingratitude à l'égard de ses parents parce qu'on en a honte, parce qu'ils n'ont pas fait de nos études, parce qu'ils ne comprennent pas la littérature?
Non, mais ce qui est passionnant dans ton livre, c'est qu'effectivement, il y a ce côté autobiographique. Et puis, comme tu l'écris, page 102, ce jour-là, j'ai préféré la fiction à la vie elle-même. Donc, en fait, il y a cette partie effectivement fictionnelle, et aussi, il y a cette partie qu'il faut le dire aux auditeurs, c'est que ton roman, il est assez étonnant. Moi, au début, ça m'a dérouté, la forme. Oui, ouais, la forme est très déroutante. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une partie descriptive, tout ça. Et puis, tout d'un coup, il y a des inserts, en fait, de dialogue. Et on se dit, mais bah tiens, bon, ok, des dialogues, parfait, pourquoi pas. Et puis après, on revient à la suite du texte précédent.
J'ai eu un
donc
commentaire.
Des formes de rejet, et donc c'est assez étrange.
Oui.
Mais une fois qu'on a saisi, en tout cas, la façon d'écrire, ça devient vraiment passionnant, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans la tête, en fait, d'Annabella.
Oui, on est dans sa tête, et les premières... Alors, j'ai récemment vu un commentaire d'une blogueuse qui a dit, oui, je l'ai lu d'une traite, mais par contre, j'ai pas compris au début ce qu'elle voulait faire, l'auteur. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, non, je voulais pas vous déstabiliser. Mais en fait, c'est pas de moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Antonio Lobo Antunes, qui est un de mes écrivains préférés, qui crée ce procédé-là. Et quand il a expliqué pourquoi il avait créé ce procédé-là, je me suis dit, mais c'est ça en fait la vie. Quand on parle à quelqu'un, on est là, on est présent, donc il y a le discours, on tient pas le perchoir pendant une heure, sauf dans un entretien où on doit argumenter, développer des arguments, etc. On tient pas le perchoir pendant une heure, on interagit, on est traversé d'affects, d'émotions, on est présent ici et maintenant, mais aussi on est traversé du mois passé, du mois à venir, des espérances, etc. Et je trouvais que le dialogue devait être commenté, parce qu'à chaque fois, en fait, quand le récit intervient, c'est une sorte de commentaire sur ce qui ne peut pas se dire dans la parole, dans le discours. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Antonio Lobo Antunes. Donc, il va écrire un discours comme ça, et puis après, il va avoir un commentaire. Alors, je l'avais lu dans La Splendeur du Portugal, qui est un livre que j'ai trouvé éblouissant. J'ai lu en 2018, et tout de suite, ça m'a débloqué pas mal de choses.
Mais en tout cas, moi, ce que je trouve vraiment, vraiment passionnant, oui, c'est cette histoire de forme, qui est une forme de prose poétique, même si ça, ce sont des mots pour essayer de mettre des mots sur finalement une façon d'écrire. Je sais que tu t'intéresses beaucoup à Proust, et je trouve que même si l'écriture n'est pas proustienne, mais il y a quand même des choses qui font référence à Proust. Pourquoi ? Parce que le beurre de karité, l'odeur, la brousse, tout ça, ça fait ressurgir la mémoire. Donc est-ce que ça aussi, tu as été dans ce sens-là ?
Ah ouais, non mais Proust, je l'ai là dans mon sac, et je le lis tout le temps, je relis. Je trouve qu'il a une hyper mémoire. La description des lieux, des choses, etc. En fait, dès l'instant où j'ai compris ce qu'il appelle la mémoire volontaire et la mémoire involontaire, il dit que dans la mémoire volontaire, c'est un procédé qui passe par le raisonnement. Donc, par exemple, imaginons, je veux me souvenir où j'ai mis mes clés, donc je vais réfléchir, je vais passer par le raisonnement. Tandis que la mémoire involontaire, elle va être déclenchée par des sensations et par des images. Les sensations, c'est par exemple, d'un seul coup, on goûte une madeleine trempée dans du tilleul. Ou alors, d'un seul coup, on voit des arbres et ces arbres nous rappellent une haie d'arbres, etc., etc. Et donc, il y a un déclenchement. Et cette sensation-là, je l'ai parfois. Parfois, je suis dans un endroit, je vais voir un objet et ça va me faire penser à mon père. Je vais goûter un aliment, je me dis, ah, mais j'avais goûté ce type d'huître-là avec mon père à l'île d'Oléron. En étudiant, en tout cas, le dernier tome et le premier tome, parce que je l'avais à l'agrégation, que j'ai raté. Mais bon, c'est pas grave, c'est une autre histoire. j'ai essayé de travailler sur ces histoires de mémoire. Et en fait, ça a ouvert beaucoup de perspectives. Moi, j'ai une très grande admiration pour Proust. Et dans le même genre, dans les mêmes auteurs vivants, Pierre Michon, incroyable. Et ce sont. Alors, on peut toujours lire, on peut toujours admirer, mais on n'atteindra jamais.
Et peut-être pour terminer, je te cite un moment. Ce qui me manque le plus à ma vie, c'est d'avoir des parents morts.
Elle veut être libre. Annabella veut être libre. Et elle est encombrée de ses deux parents qui ne sont pas conformes à son idéal du parent. Elle admire ses professeurs. Le premier professeur qu'elle admire, c'est son professeur, Madame Chenu, qui corrige ses rédactions, qui a un langage châtié, etc. Le deuxième professeur qu'elle admire, c'est son professeur responsable du département de lettres. Toujours des femmes, toujours des femmes très instruites, très cultivées. Et ses parents ne sont pas comme ça. Sa mère, c'est une Congolaise qui a grandi dans un village. La littérature, ça lui passe par-dessus la tête.
Et finalement, c'est un récit d'émancipation. Alors attention, les références sont toujours bizarres, mais ça fait penser à Annie Ernaux aussi. Enfin, c'est pas du tout le même genre d'écriture,
mais
l'histoire en fait, même si Annie Ernaux est née en France, pas du tout la même trajectoire, mais il y a cette histoire quand même d'émancipation par la littérature en fait.
L'émancipation par la littérature, et ça arrive très souvent chez les jeunes qui ont accédé à un milieu social qui n'est pas le même que ceux de leurs parents.
Ouais, tout à fait. Voilà. En tout cas, moi, je conseille vivement ce livre parce que c'est vraiment un livre formidable. Donc, Rapatriement chez Grasset, d'Ève Guéra.
Merci beaucoup.
Et on peut te rencontrer. Tu peux peut-être citer les dates. Je crois que c'est le 8 mars à la librairie du Tramway. Non,
oui,
peut-être le 9.
Non, le vendredi 8 mars.
Vendredi 8 mars à la librairie du Tramway.
Je serai à la fête du livre de Bron le samedi 9 mars à 15h pour une table ronde.
Et puis voilà, il y a plein d'autres choses qui arrivent, mais vraiment. Et voilà, ça fait du bien en fait de des jeunes auteurs, comme tu le disais tout à l'heure, voilà, il y a des gros cylindrés dans des maisons d'édition qui font vendre et tout ça, et ça permet à ces maisons d'édition d'éditer des jeunes auteurs,
des livres qui vont se vendre à 200 exemples.
En tout cas, merci beaucoup
pour l'invitation.
Merci. Elle.
Bonjour Gaëlle, cette semaine tu nous proposes la visite de l'exposition au téléphone Oracle Noir de Julien Creuset au magasin Centre National d'Art Contemporain de Grenoble.
Donc l'artiste d'origine martiniquaise Julien Creuset, passé par l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon et récemment exposé à la Fondation Luma, va représenter la France à la prochaine Biennale de Venise, 60e édition, du 20 avril au 24 novembre prochain. Julien Creuset est le premier artiste originaire des Outre-mer à exposer au sein du pavillon français. La directrice du magasin, Céline Kopp, est commissaire avec Cindy Sichoko de l'exposition de Grenoble. Toutes deux sont également les commissaires du pavillon français pour la Biennale de Venise 2024. L'exposition au téléphone Oracle Noir de Grenoble sonne ainsi comme un prélude à la Biennale de Venise. L'hybridation est le maître mot. Hybridation de culture, Caraïbes, Afrique-Europe, hybridation de contes, d'imaginaires, de récits initiatiques, croyances et religions. Une pluralité de médiums sert ces hybridations, sculpture, poésie, vidéo, musique et performance. L'univers de Julien Creuset invite à traverser le temps et la géographie autour des luttes anticoloniales et des effets post-coloniaux. Plusieurs références littéraires enrichissent cette réflexion. Écrit du Brésilien Oswald de Andrade, des Afro-américaines Toni Morrison et Angela Davis, et des Martiniquais Aimé Césaire et Édouard Glissant. Le magasin de Grenoble nomme la rue l'espace sous la verrière métallique construite par Gustave Eiffel. Cette immense surface révèle un archipel de sculptures suspendues et constituées de lambeaux de filets de pêche, résidus de plastique, coquillages, plumes et perles, amalgame qui semble pointer les travers du commerce transatlantique. Puis la première salle est dédiée à la vidéo Cloud, Cloudy, Glory, soit nuage, nuageux, noir. Ce n'est que le début d'un long titre qui évoque aussi la rougeur tristesse et la rougeur sanglante sur la peau. L'artiste propose un collage image-texte avec des superpositions d'images provenant essentiellement de livres anciens d'anthropologie et de poèmes. La couleur rouge, que le titre qualifie de triste et sanglante, prédomine dans la vidéo autant que sur les murs autour de l'écran. Julien Creuset a badigeonné les murs de Roucou, une graine rouge d'Amérique centrale et des Caraïbes, exportée en Europe pour teinter la mimolette. Le double dispositif rouge à l'écran et rouge sur les cimaises permet d'apporter une visibilité à une histoire passée sous silence, celle du commerce des épices que les AOC taisent. D'autres vidéos jalonnent le parcours. Dans « Au téléphone, oracle noir », vidéo qui donne son titre à l'exposition, Julien Creuset apparaît seul, de nuit, octroyant à son téléphone le pouvoir d'une pierre d'obsidienne. Pierre qui protège des énergies négatives, apaise anxiété et stress et accélère les guérisons. Sa vidéo la plus récente, Zumbi Zumbi, a été révélée en 2023 à la Biennale internationale d'art de São Paulo. Petite parenthèse, le Brésil est décidément mis à l'honneur car la prochaine Biennale de Venise est commissionnée par le Brésilien Adriano Pedrosa. Donc, Zumbi Zumbi est un songe aquatique qui redonne numériquement vie à Zumbi dos Palmares, célèbre chef de guerre du royaume autonome de Palmares, fondé au Brésil au XVIIe siècle par des esclaves insurgés. Zumbi, figure tutélaire de la résistance anti-esclavagiste, a été décapité par les Portugais le 20 novembre 1695. Véritable icône, Zumbi connaît une grande vénération dans plusieurs pays d'Amérique latine, dont le Brésil, qui a fait du 20 novembre, jour de la mort de Zumbi, le jour férié de la conscience noire. La vidéo Zumbi Zumbi vous immerge dans des images oniriques et hypnotiques. La musique enivre, mais les paroles qui scandent l'histoire et le nom de Zumbi sont bien présentes. Ce dispositif féerique n'atténue pas la réflexion sur les luttes anti-esclavagistes. La machette qui a décapité Zumbi est bien présente à l'écran. La vidéo la plus longue de l'exposition, 26 minutes, met en avant les liens entre les Antilles et l'Afrique à travers la figure d'Ogun, grand guerrier, divinité du fer et du feu dans la mythologie yoruba. Ogun a inspiré les esclaves lors de la révolution haïtienne de 1791 à 1804. Julien Creuset commémore ainsi ses ancêtres. Il leur donne voix grâce à un logiciel de reconnaissance faciale. Ogun perdure encore dans le chien-fer, chien-fée en créole, je n'ai pas l'accent, excusez-moi, à la fois gardien des maisons et figure psychopompe qui guide l'âme des défunts dans l'au-delà. L'auditorium du magasin présente, lui, la vidéo « Mon corps carcasse » dans laquelle Julien Creuset évoque l'empoisonnement de sa terre natale et de ses habitants par la chlordécone, un pesticide toxique et cancérigène interdit en métropole et cependant utilisé de 1972 à 1993 pour la culture de la banane en Martinique et en Guadeloupe. L'exposition instaure également un dialogue entre Julien Creuset et d'autres artistes, cas avec The Big One World de Bruno Penado, une monumentale sculpture de 2,40 m de haut représentant un bibadom Michelin mais noir, avec une chevelure afro et le poing levé en référence au mouvement Black Power. La mascotte du bibendum, considérée comme impérialiste, est utilisée en réaction au licenciement boursier chez Michelin à partir de 1999. Idée de lutte sociale reprise dans le titre de l'œuvre The Big One World, proche de celui du film The Big One de Michael Moore. Programmée au magasin Knack de Grenoble jusqu'au 26 mai 2024, l'exposition au téléphone Oracle Noir de Julien Creuset suscite une grande réflexion sur les métissages au sens large. Plus d'informations sur magasin-knack.org.
Merci beaucoup Gaëlle. Thomas, cette semaine, ce sont les mots d'Antoine Mouton que tu nous fais découvrir. Ce texte est magnifique sur la perte de l'amour, s'appelle « Les chevals morts ». On en parle juste après t'avoir écouté dans cet extrait choisi.
Il y a tellement de gens seuls, dont on dirait qu'ils ont perdu des morceaux d'eux-mêmes. Il y a tellement de morceaux de gens qui ne sont plus eux-mêmes, après avoir perdu quelqu'un. Je ne voudrais pas, nous, qu'on se perde et qu'on se morcelle. Il suffit de bien regarder où nous mènent les chemins qu'on prend, il suffit de rester clairvoyant. Mais il y a tellement de tristesse à nos trousses, tellement de gens qui se séparent, tellement de gens dont les chemins s'écartent comme les jambes d'un cheval mort. Il y a tellement de chevals morts entre les gens. et entre les chemins qu'ils prennent. Et toute la tristesse qui disloque les gens, toute cette tristesse qui accompagne les gens dont les chemins se sont séparés, ça fait comme une horde de cheval mort entre eux, et ça ne court pas. Non, ça ne court pas, ça flâne et ça fabule sur les raisons d'une telle séparation, sur les causes d'une telle tristesse et sur que faire des dents de tous ces chevals morts qui drainent, que drainent les séparés, les écartés, les éconduits des chemins partagés. Je ne voudrais pas qu'un cheval mort écarte nos chemins, mais on peut se tromper parfois. Il y a tellement de gens qui, sans le vouloir et sans s'en rendre compte, se séparent. Il y a tellement de gens qui se sont séparés sans savoir qu'ils le feraient. Tous ces gens seuls, non. Tous ces gens séparés. On dirait qu'ils sont séparés d'eux-mêmes. On dirait les morceaux d'un bonheur passé. Et les chemins s'écartent, s'écartent, s'écartèlent, tandis qu'entre eux tombent les dents des chevals morts. C'est un cataclope, une cataclope, une cataclope. Une cataclope, tous ces gens que les chevals morts de tristesse écartèlent, une cataclope, tous ces chemins séparés que l'absence de clairvoyance pourrait nous faire emprunter, une cataclope, tous ces morceaux de joie qu'on perd, cataclope, les chevals morts ne galopent pas, ils piétinent, ils soufflent, ils renâclent entre les gens devenus seuls parce que la tristesse à leur trousse les a pressés, la tristesse s'est infiltrée, la tristesse les tue, presque les a tués. La tristesse de l'inadvertance et tous ces cœurs disjoints qui cataclopent dans des directions contraires, avec parfois la certitude de se retrouver et parfois pas, parfois l'écueil, l'écartèlement, la disjonction des chemins contraires à l'amour, à la joie, à la folie d'être ensemble, cataclope, la folie est une bonne idée, cataclope, tous les chevals morts, cataclope derrière cette folie, cataclope sans galoper, cataclope pour annoncer le pire, l'écartèlement du pire, les disjonctions du pire, les dents des chevals morts mordront, lacéreront, déchiqueteront ce qu'il reste de fou dans la joie d'être ensemble et prendront tout l'espace entre les chemins séparés. Et s'ils sinuent, s'ils insinuent, s'ils détournent et s'ils tournent, si nous nous resserrons, est-ce qu'ils s'insèreront ? S'ils sortent de la route, ils nous déroutent. S'ils coupent, ils nous découpent. Et s'ils visent, ils divisent. Mais s'ils tranchent, nous nous retrancherons.
Merci beaucoup, Thomas. Merci pour cette lecture. C'est très puissant et j'ai la sensation aussi qu'il y a comme une scansion avec le fameux cataclope.
Cataclope.
Qui est un élément qui revient beaucoup. Et toute cette idée un peu me fait penser un peu au slam. C'est-à-dire quelque chose en fait qui pourrait être prononcé, qui pourrait être scansé.
Alors j'ai découvert que ce texte vient de l'oral, hein, puisque avant d'être publié, il a eu une première existence mis en scène. Je ne sais pas si c'était une forme slam, mais effectivement, il y a un travail sonore qui est très présent.
Ouais. Ouais, c'est très très beau. Les chevals morts, c'est beau parce que évidemment, c'est une faute de français. mais on pardonne tout au poète.
Non. C'est, j'ai choisi ce texte simplement pour faire la correction.
Et qui est cet auteur et comment il est arrivé jusqu'à toi, ce petit recueil. C'est beau d'ailleurs. Hein. C'est une belle édition.
Les éditions de la Contre-Allée.
Ouais.
Ouais, c'est
Collection
c'est...
Lassante.
C'est un nom qui flottait sous mes yeux depuis un certain temps, mais je n'avais pas lu Antoine Mouton. J'ai découvert qu'il est. C'est un régional de la Loire.
C'est une libraire qui t'a.
Une libraire m'a mis ça dans les mains et enfin, il me semble qu'on n'a pas le droit de s'échapper aux prescriptions d'un très bon docteur quasi chamanique ou d'une libraire. Il faut surtout pas. Et donc, il faut s'exposer aux prescriptions de libraire.
C'est vrai.
Pour avoir le courage de pousser cette porte.
Allez chez votre libraire, ça sera notre mot de la fin. Merci beaucoup Thomas.
Merci.
Nous terminons comme chaque semaine avec nos coups de cœur, nos incontournables Gédéon. Gaël, quel est ton Gédéon cette semaine ?
Alors, qui peut sauver l'amour en 3 jours ? Du 8 au 10 mars prochain. À l'Hippodrome de Paris, la fête du livre de Bron, le festival consacré à la littérature contemporaine. 70 invités en littérature, littérature jeunesse et sciences humaines servent, grâce à leurs romans, poésies, essais et BD, la thématique de l'édition 2024 « Sauver l'amour ». La fête du livre de Bron est un rendez-vous de rencontre d'exception. Écrivain confirmé et émergent, auteur illustrateur, mais aussi musicien et comédien. Vous pouvez librement assister aux tables rondes, grands entretiens, ateliers, masterclass, projections, lectures musicales et déambuler dans l'espace librairie, véritable cœur battant du festival avec des libraires indépendants de Lyon et de la région. Avec Sauver l'amour, on pense immanquablement à L'amour de François Bégodeau, mais aussi à l'autrice Sophie d'Ivry pour son roman Fantastique histoire d'amour. Les deux écrivains mèneront un dialogue d'auteur programmé le 9 mars. Impossible de citer tous les invités, mais Charles Berberian, que j'ai récemment chroniqué pour sa BD Une éducation sentimentale, sera présent, ainsi que Jean-Baptiste Andrea, prix concours 2023 pour Veiller sur elle. L'entrée à la fête du livre de Bron est libre. Arrivez toutefois à l'hippodrome une demi-heure avant les rendez-vous afin d'avoir un ticket vous assurant une place. Plus d'informations sur fêtedulivredebron.com.
Merci beaucoup Gaëlle. Guillaume, quel est ton Gédéon cette semaine ?
Alors moi, mon Gédéon de la semaine, c'est une bande dessinée. Vous savez que la semaine dernière, Michel Missac Manouchian, très au Panthéon, ouais, avec sa femme Mélinée. Bon, alors, sans vouloir faire de polémique sur...
On va laisser ça derrière.
Annette Viverka, parce qu'elle trouve qu'évidemment, les autres méritaient aussi d'entrer au Panthéon. En tout cas, il représente ceux de...
Tous ses compagnons du Mont Valérien.
Voilà, du Mont Valérien, fusillé donc le 21 février 1944. Donc, cette bande dessinée, qui s'intitule Missac Manouchian, une vie héroïque, coécrite par Didier Daninx, Mako et Dominique Ozuc. C'est vraiment une bande dessinée assez simple qui retrace effectivement toute l'épopée.
Et ils y sont tous à la fin, d'ailleurs, il y a leurs photos.
Alors oui, mais ça c'est parce que tu précèses ce que je voulais dire. Mais d'abord, je voulais venir d'abord sur, parler de la bande dessinée. Donc en fait, dans la bande dessinée, bon, il y a l'histoire, mais il y a aussi, et c'est assez étonnant, je trouve, il y a beaucoup d'affiches de l'époque, que ça soit des affiches de films, des affiches de propagande.
Qui ont été reconstituées. Je vois, les dessins sont sublimes.
Ouais, en dessin. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est souvent pleine page et donc c'est vraiment assez inhabituel en fait. Et puis oui, il y a une deuxième partie, enfin une partie à la fin avec des documents. Donc il y a tout un cahier.
Documents historiques,
voilà,
avec des
pédagogiques,
lettres.
Voilà, avec évidemment la lettre de Mélinée, mais avec d'autres courriers, avec des photographies et puis avec les photographies, une des trois photographies prises par cet officier nazi, anti-nazi, puisqu'il a pris ses photos pour témoigner. De cette exécution. Donc ce monsieur, je cite son nom quand même, Clémence Rutter, qui a fait ses photographies.
Ces photos célèbres du Mont Valérien.
Voilà, c'est vraiment un bouquin intéressant. Alors il y a multitude de livres sur ce sujet cette semaine, et à juste titre. Mais je trouve que c'est assez simple. Je pense que ça devrait faire partie de toutes les bibliothèques des familles actuelles, des CDI, des établissements scolaires. Et c'est vrai que c'est un petit peu étrange de faire rentrer Missac Manouchian au Panthéon pendant qu'on fait voter des lois un petit peu scélérates concernant le droit du sol l'arrêt du droit du sol dans certains endroits de notre nation. Donc voilà, je trouve que c'est un bouquin à lire, à garder dans sa bibliothèque. Puis comme tu l'as dit, les dessins sont plutôt réussis.
Je trouve que le rapport à l'architecture et à l'espace en fait est particulièrement soigné.
Tout à fait. Donc je rappelle
toute une dimension urbaine en fait de la résistance.
Donc Missac Manouchian, une vie héroïque, et c'est publié aux Arènes BD et au ministère des Armées.
Merci beaucoup Guillaume. Pour ma part, c'est le festival Écran Mixte à la Maison de la Danse qui a retenu mon attention. Alors le festival Écran Mixte, c'est absolument partout dans la métropole. Mais en tout cas, le samedi 9 mars, une journée à la Maison de la Danse est prévue. Depuis maintenant 13 ans, chaque année, au mois de mars, le festival Écran Mixte célèbre dans toute la métropole de Lyon les représentations LGBTQI+, à travers l'histoire du cinéma, mais aussi dans le cinéma contemporain, rétrospectif, focus, avant-première, compétition, long métrage, documentaire. C'est une grande fête du cinéma queer qui s'organise en partenariat avec de nombreuses institutions culturelles de la métropole. Pour la 14e édition au festival Écran Mix, qui se déroulera du 6 au 14 mars 2024, la Maison de la Danse ouvre ses portes au festival pour une grande journée de projections et de rencontres. Grandes salles cinémades, restaurants, tous les espaces de la maison seront investis pour une belle journée cinéma sur le thème de la danse et du spectacle. Le pass film cabaret plus un film 9 euros, cabaret plus deux films 12 euros, cabaret plus trois films 15 euros. Bref, c'est tout à fait accessible et c'est une belle journée qui se prépare, je vous le rappelle, samedi 9 mars, une journée à la Maison de la Danse. Guillaume.
Non, un petit mot parce que l'affiche a été réalisée par Karamia, qu'on a eu à ce micro et qui est une très bonne amie.
Et puis on salue. Et elle a fait un très bon travail.
Tout à fait, on salue Olivier.
Au-delà d'être une amie.
On salue aussi Olivier qui programme ce festival. Il n'est pas tout seul, mais voilà, c'est un travail de très grande qualité sur l'ensemble du territoire et c'est vraiment un festival absolument
et qui prend de
génial.
L'ampleur, hein, depuis quelques, enfin, on va dire que quand ça a commencé, c'était quand même.
Et puis surtout, ce que je trouve formidable, c'est que ça nous permet de voir des films qu'on ne verrait nulle part ailleurs.
Absolument.
Donc c'est vraiment un festival à ne pas rater. Voilà.
Ouais, très bien, merci beaucoup Guillaume.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur Lyon Demain.fr.